Jeûner et prier dans l'adversité, c'est le thème qu'on a commencé hier soir, qu'on finit ce soir. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 1er, si vous voulez bien l'ouvrir à nouveau avec moi. On n'avait pas tout lu, c'est une grande lecture, il y a énormément de principes. Ces 30 versets sont un condensé de bénédictions, de choses toutes plus belles les unes que les autres, qu'on ne pourra même pas voir tout en 2 soirs, donc je vais à l'essentiel. Je fais juste un tout petit rappel. Jeûner et prier dans l'adversité, ça doit être notre première réponse, notre premier secours et pas un dernier recours. Jeûner et prier dans l'adversité, on a vu que c'était une façon de réagir, une bonne réaction, parce que des réactions, c'est normal, nous en avons toujours dans différents domaines, de différentes façons. Mais le problème, c'est que souvent, nous réagissons mal. Nous pouvons réagir parfois plus humainement, plus charnellement. Jeûner et prier dans l'adversité, ce n'est pas par superstition, ce n'est pas un rituel magique, tout ça, on avait compris. C'est vraiment un jeûne de réaction et d'engagement. Je refuse de vivre dominé par la peur. On a parlé de la peur hier, par les circonstances. Je refuse de perdre mon temps et mon énergie dans des combats qui n'en valent pas la peine. Combien est-ce qu'on peut perdre de temps dans des faux combats, dans des combats humains ou charnels? Ça ne sert à rien du tout. Et jeûner et prier, c'est une façon de s'empêcher d'aller dépenser de l'énergie inutilement ailleurs. Jeûner et prier, c'est une façon de prendre position. C'est ce qu'on a vu aussi. Jeûner et prier, pourquoi? Parce que dans le jeûne et la prière, nous apprenons à lâcher prise. Nous relâchons tout entre les mains du Seigneur, nous apprenons à abandonner, à perdre le contrôle un peu plus, mais aussi nous apprenons à nous abandonner nous-mêmes un peu plus. Et puis, ben évidemment, c'est un acte de foi, puisque dans le jeûne et la prière, je ne m'occupe de rien, si ce n'est de lui, et en plus, folie, parce que humainement parlant, c'est une folie, je suis déjà sans ressources et sans solutions par rapport à certaines situations, je suis déjà faible vis-à-vis de ma situation, je suis incapable et insuffisant, et en plus, je vais m'affaiblir physiquement, parce que quand on jeûne pour de vrai, des petits coups de mou dans la journée, hein, c'est normal. Et c'est pour cela que c'est vraiment un acte de foi, c'est vraiment une façon de dire « Seigneur, je lâche tout, je remets tout entre tes mains, même le plus légitime, je laisse tout entre tes mains et je crois à cette fidélité de ta personne, tu es mon Père et tu sauras me le rendre. » Et puis on en était là hier soir pour chercher Dieu. Oui, jeûner et prier, mais Josaphat, il n'a pas publié un jeûne pour chercher des solutions. La tentation, même dans le jeûne et dans la prière, ce serait de chercher plus des solutions que le Dieu qui est ma solution. De chercher soit des bénédictions, de chercher des réponses, parce que dans l'adversité, forcément, on a plein de pourquoi, et souvent on vient, on veut des réponses. Et ce n'est pas parce que tu as des réponses que ça va te faire grandir. Une explication, ce n'est pas une croissance. Donc je viens pour chercher Dieu. Et puis on en était arrivé à ce point. Est-ce que je jeûne pour consulter Dieu ? Où est-ce que je vais jeûner pour lui dire ce qu'il a à faire? Parce que le grand tort de beaucoup de croyants, du pasteur que je suis, c'est ma nature humaine, on a tous la même, c'est que à partir du moment où je n'ai pas obtenu quelque chose dans la prière, je me dis, puisque je ne l'ai pas obtenu dans la prière, eh bien je vais jeûner. Mais, okay, mais c'est faux, parce que ça devient une grève de la faim. Si je jeûne pour obtenir des choses parce que je ne les ai pas obtenues dans la prière, j'ai manqué une dimension du jeûne. Je fais du jeûne un rite superstitieux et magique, puis en plus, j'en fais de nouveau mon dernier recours. Donc ça ne va pas du tout, il faut briser le cercle infernal, il faut casser cette boucle. Je jeûne pour consulter Dieu. Alors, on reprend ensemble le texte. 2 Chroniques, chapitre 20. Josaphat prie ainsi, verset 6, « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force, la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste, la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom, et ça c'est le moteur, c'est le centre de sa prière, ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse. Tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, les fils d'Ammon, de Moab, la montagne de Séir, les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes, leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jakaziel. Et Jakaziel, verset 15, dit, et j'aime beaucoup ça, « Soyez attentifs ». Parce que jeûner et prier, si on n'est pas attentif à ce que Dieu voudrait nous dire, j'ai déposé une liste de courses supplémentaires, mais soyez attentifs. Ils ont cherché Dieu, Dieu parle, Dieu répond. Et ce n'est pas normal que dans un temps de jeûne et de prière, d'une façon ou d'une autre, sur l'instant ou un petit peu plus tard, ce n'est pas normal que je reparte comme je suis venu et que je n'ai pas entendu la voix de Dieu. Soyez attentifs, tout Juda, habitant de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi parle l'Éternel. Et maintenant, le Seigneur va dire ce qu'il a à dire sur cette situation. Ne craignez pas, ne vous effrayez pas devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tzitz et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. C'est excellent ça, non? Vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Le seul combat que je dois mener, si on peut parler de combat, c'est le combat du jeûne et de la prière. Vous n'aurez pas à combattre dans les circonstances pratiques. Présentez-vous, tenez-vous là, vous verrez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Juda, Jérusalem, ne craignez pas, ne vous effrayez pas. Le Seigneur recommence, n'ayez pas peur, ne vous effrayez pas. Demain, sortez à leur rencontre, l'Éternel sera avec vous. Je passe les versets 18, 19, 20, verset 21. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours ». Là rentre, on va le voir, rentre ensuite la puissance de la louange. Jeûne et prière et louange, ce n'est pas incompatible, hein, bien au contraire. On va le voir. Au moment, verset 22, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade. Alors ça, je raffole. L'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon, de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Versets 23 à 24, on s'aperçoit très rapidement, brièvement, qu'en fait le Seigneur les a en quelque sorte aveuglés, dressés les uns contre les autres. Ils se sont exterminés entre eux. Verset 25. Josaphat et le peuple, ils ne se sont pas battus dans les circonstances. Josaphat et le peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses des objets précieux. Et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin car il était considérable. Le 4e jour, et là on arrive à l'objectif suprême de l'épreuve, le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Béraka, Béraka signifie bénédiction, ils s'assemblèrent dans la vallée de la bénédiction où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Béraka, bénédiction, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Versets 28, 29, 30, c'est une fin merveilleuse. Le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Amen. Une fois que Josaphat a publié un jeûne et qu'il avait les bonnes motivations, les bonnes dispositions pour jeûner, on sent aussi sa bonne disposition dans sa prière. C'est vrai que la prière, c'est ce que je vous ai mis, ce n'est pas un monologue. Ce n'est pas un monologue ni dans ce sens-là, ni dans l'autre sens. C'est un dialogue entre Dieu et moi. Et dans ce dialogue, il est tout à fait normal, la Bible le dit, que je fasse connaître mes besoins, que je parle des situations au Seigneur, même s'il les connaît parfaitement. Je lui fais connaître, ça m'amène aussi à exercer ma foi. Il y aurait plusieurs raisons à développer, mais ce n'est pas mon sujet ce soir. Oui, il faut que je lui parle de la situation. Je dois parler à Dieu. Prier, ce n'est pas seulement raconter ses problèmes. Vous relirez, vous ferez attention, notez bien, versets 6 à 12, la prière de Josaphat est parfaitement équilibrée. Il passe beaucoup plus de temps dans la prière à parler de Dieu que de son problème. Il va parler beaucoup de Dieu, c'est que la prière est d'abord orientée vers Dieu. La prière, ce n'est pas dans ce sens, et moi, et moi, et moi, et mes problèmes, et moi. La prière, c'est d'abord orientée vers Dieu. Et il replace Dieu, il le recentre, il est vraiment au cœur de sa prière, et il se focalise d'abord sur Dieu, qui il est, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il a fait, sa fidélité, sa capacité. Et quand vous relisez les différents versets, vous vous rendez compte qu'il est en train de parler de Dieu, il est en train de confesser Dieu. Ensuite, seulement en deuxième plan, c'est normal, il va parler de la situation, puisque c'est biblique. Mais il a commencé à parler de Dieu à Dieu. Il a commencé à parler à Dieu de Dieu, parce que c'est ça le moteur de la prière. Ce n'est pas mes problèmes qui sont le moteur de ma prière. Si mes problèmes sont le moteur de ma prière, ma vie de prière, elle va vite se décourager, elle va vite caler. Donc, ma prière est centrée, focalisée sur Dieu. Et il passe beaucoup plus de temps à parler de Dieu dans sa prière. Ensuite, il va parler un petit peu des circonstances, c'est normal. Il faut le faire, c'est biblique. Mais en même temps, il ne va pas y passer quatre plombes, il ne va pas y passer trois mois, il ne va pas à chaque fois ressasser et rabâcher les mêmes choses. Parce que si Dieu m'a demandé de lui faire connaître mes besoins, je sais aussi qu'il sait très bien de quoi il est question, quoi. Je ne vais pas non plus lui faire les détails et puis lui renseigner indéfiniment pour qu'il sache exactement le moindre truc. Non, il le sait. Donc il parle de la situation, mais juste ce qu'il faut, avec sobriété. Et puis ensuite, il va parler de lui, mais alors très très peu. Hein. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez dire? De toute façon, Seigneur, nous sommes sans force. Et nous ne savons que faire. Bon, je le sais, tu le savais, c'est dit, c'est fini, c'est bouclé, on ne va pas y passer, on ne va pas se lamenter. Ah, mais Seigneur, tu sais, j'ai essayé, et j'y arrive pas, et Seigneur, tu vois, j'ai encore parlé à un tel cette semaine, il ne m'a pas écouté, fait qu'il me croit, fait qu'il m'écoute, et j'ai essayé ça, et j'ai essayé ça. Oh, c'est bon, on sait que tu n'es pas capable, le Seigneur, il le savait avant toi. Hein. Une prière dans laquelle il parle beaucoup de Dieu, un petit peu du problème, et très très peu de lui. Eh bien ça, c'est une super prière parfaitement équilibrée. Et c'est là que je dis, la prière est équilibrée, et une fois que ça s'est fait, c'est déjà très bien, mais il ne s'est pas arrêté là. Parce que dans le temps où on jeûne, où on prie, puisqu'on cherche Dieu, on cherche sa face, je vous avais expliqué dans d'autres messages que jeûner et prier, quand on a fait taire des tas de choses, des tas de bruits autour, jeûner et prier, c'est comme une façon de réorienter l'antenne parabolique. On se réoriente, on se reconnecte bien à Dieu, c'est pas qu'on l'entend jamais, mais dans le jeûne et dans la prière, il y a une disposition de cœur, il y a une disposition particulière, où vraiment je réoriente l'antenne vers le Seigneur, et là, je peux mieux entendre la voix de Dieu. Jeûner et prier, si on n'est pas attentif, si on n'attend pas la réponse, si on déballe notre liste de courses, excusez-moi l'expression, et que derrière on ne laisse pas à Dieu la possibilité de dire quelque chose, on repart, mais ça ne sert à rien. Parce que s'il avait prié, je vous prends un exemple concret, s'il avait prié en racontant tout ça au Seigneur, puis qu'après ils disent « Bon les gars, on a bien prié, hein, on a bien jeûné, allez l'armée, en route, on a prié, donc forcément on va être bénis, on va leur régler leur compte. » C'était fichu. Excusez-moi l'expression, ils auraient morflé. Ils auraient essuyé un échec cuisant. C'est très bien d'avoir fait connaître, d'avoir une prière équilibrée, une prière de foi. Je pense, frères et sœurs, humblement, moi le premier, que quand on prie, on s'en va trop vite. Et c'est peut-être juste pour ça que des fois, on n'a pas eu la réponse. Alors c'est extrêmement important de savoir écouter. Et cette parole, quand je l'ai relue cet après-midi, soyez attentifs. Ah, j'ai dit, Mais oui, mais ce n'est pas le tout de jeûner. Il faut que je sois attentif ensuite à ce que Dieu veut me dire. Il a attendu la réponse avant d'agir. Puis heureusement, il a bien fait, parce que dans ce cas-là, le plan, c'est qu'il ne fallait surtout pas agir. Ça, c'est... Moi, pour moi, ces textes, je raffole. Pour moi, c'est le top du top. Oh, le gars, il prie. Alors, des fois, le Seigneur donne des plans. Hein. Ouais, vous ferez le tour de Jéricho, vous ferez ceci, tu vas prendre des cruches, des flambeaux, tu vas aller là, tu vas faire ci. Des fois, Josué, il était dans la vallée contre Amalek, qui se battait. Moïse avait les bras levés sur la montagne. Des fois, il y a des moments, effectivement. Ouais, il y a quand même eu des combats, même des combats sanglants dans l'Ancien Testament. Mais alors là, le top du top, c'est quand l'autre, il est KO, que tu t'es même pas battu. C'est exceptionnel. Mais le Seigneur est vraiment exceptionnel, hein, vraiment. Et dans ce temps de jeûne, c'est important de savoir se taire et de retrouver la voix de Dieu. Heureusement, Josaphat et le peuple, ils ont su attendre, ils ont su être attentifs. On prie, on prie, on prie, et après on prend des initiatives. Non, on prie, on persévère, on jeûne, et après on attend la réponse. Et vous voyez, frères et sœurs, dans nos vies chrétiennes, il y a des fatigues, je le disais lundi soir, il y a des fatigues qui sont normales. On est fatigué parce qu'on marche. Quand je marche, je me fatigue. Quand je cours, je me fatigue. On s'use, c'est normal, c'est la vie. Ce sont des fatigues qui sont liées à l'exercice de la vie chrétienne, à la marche chrétienne, c'est normal. Mais, pardon, hein, il y a des fatigues qui sont liées à notre manque de sagesse. Des fatigues qui sont liées à des combats que le Seigneur ne nous a pas demandé de mener. Nous nous sommes parfois engagés dans des combats que le Seigneur n'aurait jamais voulu pour nous, et on s'est provoqué une fatigue. Après, on est étonné que ça ne marche pas. Oui, mais non, il faut être clair, vous regardez de nombreux textes, Gédéon a vaincu les Madianites parce qu'il a écouté, il a entendu le plan de Dieu, comme ici avec Josaphat. Dieu a donné son plan, il lui a dit « tu vas faire comme ça et comme ça ». Comment je fais avec mes enfants, Seigneur ? Tu vas faire comme ça et comme ça. Et je me mets personne mal à l'aise, hein, si je demandais à tous les chrétiens en général, bon, vous avez des enfants, des familles inconverties, c'est quoi le plan pour les gagner ? Dieu a dit quoi ? Comment vous allez les gagner ? Le peuple et Josué étaient en face de Jéricho, Dieu a donné son plan. Il a dit, vous allez faire comme ça et comme ça. Accomplissement d'un plan. Le Seigneur a parlé. J'ai besoin d'écoute. J'ai besoin d'être attentif. J'ai besoin d'arrêter de prendre des initiatives. J'ai besoin de laisser tomber les combats charnels, les combats qui me fatiguent, qui me vident, qui enlèvent mon énergie. Il y a aussi un autre texte auquel je repensais cet après-midi pour confirmer tout ça. Vous vous souvenez de cet épisode où David, 1 Samuel 30, David est à Tsiklag. Et pour vous dire que le Seigneur, dans sa grâce, donne même des plans pour, même quand on est dans les conséquences de nos inconséquences. David, il n'avait rien à faire chez les Philistins. Ce n'était pas sa place. C'est dans un moment de panique, à un moment où il a eu peur, il a été avec le roi Achish, il a commencé à faire une mésalliance, il s'est installé, il a été là où il n'avait rien à faire. Et s'il n'avait pas été là, s'il avait écouté Dieu comme les autres fois, il ne se serait pas passé cet épisode tragique qu'il a vécu à Tsiklag. Quand il rentre et que Tsiklag est brûlé, on a emporté les biens, la famille, les enfants, les femmes, tout le monde, tout a été déporté, tout a été enlevé. Et il nous est dit, alors que pourtant David est en train de payer les conséquences de ses inconséquences, il nous est dit que David consulta l'Éternel. Il n'a pas dit « j'ai la foi au nom de Jésus, on y va, on va tout récupérer ». Il a dit « Éternel, poursuivrai-je cette troupe ?» Si je la poursuis, est-ce que je vais l'atteindre ? L'Éternel lui répondit, poursuis, parce que tu les atteindras et parce que tu délivreras. Il y a une écoute, cette conscience que Dieu a déjà un plan, que Dieu a déjà une stratégie, et que ce n'est pas à Dieu de bénir la façon dont je vais m'y prendre, dont je vais opérer, dont je vais dire, dont je vais gérer. Non, ce n'est pas à Dieu de bénir sous prétexte que j'ai jeûné et prié. C'est à moi, ça fait partie de la démarche de cœur dans le jeûne et la prière, d'être attentif et d'écouter. Dieu a un plan, il a une stratégie. attends la réponse. Nous sommes à la disposition de son plan. Et il n'est pas à la disposition de notre plan. Et là, ce serait plus, tiens, je ne l'avais pas noté, mais j'y repense, ce serait plus cette parole que Dieu a donnée, c'est une parole rhéma. Il y a des réponses qui vont être véhiculées par la parole, de façon générale. Ne crains pas, ne t'effraie pas, etc. Reste en place. Mais il y a aussi une parole rhéma, une parole plus particulière. C'est-à-dire, c'est la parole clé pour une situation particulière. Et là, c'est là qu'il y avait un plan pour Gédéon, il y avait un plan pour Josué, il y avait un plan pour David, il y avait un plan pour Josaphat, il y a un plan pour toi, il y a un plan pour moi. Et là, le Seigneur va donner une parole rhéma. Il va t'inspirer et te donner une parole, une directive, une façon d'agir qui va être comme une clé pour déverrouiller une serrure, qui va être une parole inspirée, décisive. La parole rhéma. Retrouvez la puissance de la louange. Au verset 21 et 22, d'accord avec le peuple, Josaphat nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade. Parce que la louange, qu'est-ce que c'est ? La louange, le fruit de lèvres qui confesse son nom, c'est ce que dit Hébreux 13, verset 15, le fruit de lèvres qui confesse son nom, louer Dieu, c'est même pas des actions de grâce. Quand dans le début de sa prière, Josaphat dit « Oui Seigneur, tu as été fidèle, tu as été capable d'eux et tu as mis le peuple en possession d'eux », ce sont des actions de grâce. Il rappelle des événements passés, très importants. Il se rappelle, c'est basé sur un événement passé que j'ai déjà vu, dont j'ai été témoin. Donc c'est de l'action de grâce. La louange, elle va se fonder sur la nature de Dieu pour me faire confesser des choses qui sont à venir. Mon problème n'est pas réglé. Mais avec ce qui vient de se passer, je peux totalement me décentrer de tout ça, me décentrer des circonstances, me décentrer de moi-même. Et là, je peux commencer à louer Dieu comme jamais je l'avais loué parce qu'il n'y a plus que lui. La Bible dit, psaume 22, « L'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. » Parce que la louange, c'est le langage du royaume. C'est le langage de la maison de Dieu. C'est tout l'opposé des plaintes, de la peur, des murmures, tout ce qui peut nous tuer, tout ce qui peut nous maintenir sous la pression, les murmures, les plaintes, tout ça, c'est destructeur. Mais la louange, c'est le langage du royaume. L'Éternel se plaît. L'Éternel siège, littéralement, il s'installe au milieu des louanges de son peuple. Et là, il peut relâcher sa gloire. Psaume 47 dit aussi, l'Éternel monte au milieu des cris de triomphe. La louange, elle intronise Dieu. La louange, elle le place en position de force. Quand je dis à Dieu, Seigneur, les circonstances me disent que ça ne va pas marcher, les circonstances me disent que tu n'es peut-être pas aussi souverain que ta parole le dit, les circonstances me disent que tu n'es peut-être pas aussi bon et aussi puissant que ta parole le dit, je dis, Seigneur, face aux circonstances que tu es fidèle, que tu es capable, que tu es bon, que tu es miséricordieux, que tu restes souverain, tu es, tu es, tu es, tu es. Tout ce que tu as fait, c'est de l'action de grâce, c'est très bien. Mais tu es, ça c'est de la louange. La louange, c'est l'expression de ma foi dans la nature de Dieu. Pas dans ce que Dieu a fait, dans ce qu'il est. La louange concerne directement ce que Dieu est. C'est l'expression de ma foi dans la nature de Dieu. Et alors extraordinaire, quand je fais ça, forcément, je ne fais pas ça. Donc, je l'ai déjà dit, je ne sais plus à quelle occasion, mais je me souviens l'avoir dit. La louange, elle m'amène à me décentrer de moi-même. Et par conséquent, la louange est le meilleur des antidépresseurs. Une authentique vie de louange, vous n'avez plus besoin de petites pilules. C'est aussi simple que ça. Et puis, il faut comprendre aussi que le jeûne et la prière ne sont pas un moment de tristesse. Jésus, on l'a vu lundi soir, Jésus dit « Quand tu jeûnes, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. » Alors, il existe dans certains aspects du jeûne une tristesse selon Dieu, la tristesse qui va m'emmener à la repentance. On a parlé du jeûne de retour, le jeûne de Joël, le jeûne de repentance. Des fois, oui, il faut en passer par là, mais sinon de façon générale, même si dans le jeûne, je m'abaisse, j'ai une attitude d'humilité, je suis désolé, Jésus était le plus humble de tous, on est bien d'accord, Jésus n'était pas triste, hein. Le jeûne et la prière ne sont pas des moments de flagellation, de tristesse. Non, je peux, dans le temps de jeûne et prière, j'espère qu'on va le faire tout à l'heure, qu'on va aussi avoir des actions de grâce pour tout ce qui s'est passé l'année dernière, puis qu'on va avoir tant de louanges pour tout ce qui va se faire cette année. La louange, dans le temps de jeûne et de prière, j'ai une profonde joie. J'ai la joie de la communion avec Dieu, puisque je l'ai cherché, je l'ai trouvé. J'ai la joie de la communion avec Dieu. J'ai la joie d'avoir entendu sa voix. J'ai la joie de la rémunération qui est à venir. J'ai la joie de la victoire qui est à venir. Josaphat et le peuple, ils sont partis victorieux. Bah, Dieu avait parlé, hein. Qui ira contre sa parole? Ils sont partis dans la joie de la victoire à venir. Et puis, ils sont arrivés, ils ont constaté que le boulot était fait. Les ennemis s'étaient entretués et il n'y avait plus qu'à se servir. C'est là que leur épreuve, leur pire épreuve, est devenue leur meilleure bénédiction. Parce qu'il leur a fallu 3 jours pour ramasser ce qu'ils pouvaient et ils n'ont même pas tout emporté. Et si dans ce temps de jeûne, ce soir, ta pire inquiétude devenait ta meilleure joie? Si ton pire ennemi devenait ta meilleure bénédiction, parce que Dieu change le mal en bien, hein, d'accord? Quand nos ennemis deviennent notre bénédiction, après cette épreuve, ils ont été plus riches et plus bénis qu'ils ne l'étaient avant l'épreuve. Pareil, lorsque David, je vous parlais de David tout à l'heure, lorsque David, après de Siclag, a été récupérer ce qu'il avait à récupérer, lorsque l'Éternel lui a dit « Va, poursuis, tu vas atteindre, tu vas délivrer », il est rentré plus riche que quand il est parti. Ici, Josaphat, c'est la même chose. L'Éternel les a remplis de joie. Leurs ennemis sont devenus leur bénédiction. L'Éternel les a remplis de joie, et ça, même s'il y a tellement de choses à dire sur l'épreuve, l'un des objectifs fondamentaux de Dieu, quand il permet que nous passions par l'adversité, quelle que soit sa forme, c'est que nous en sortions plus riches, plus grands, plus forts, plus bénis, plus près de lui. Donc, après l'épreuve, on a tout gagné. Parce qu'à cause de l'épreuve, j'ai gagné Dieu et tout le reste. Amen. L'Éternel les a remplis de joie. Que ce soir, ta plus grande source de blessure, ta plus grande source d'inquiétude, ta plus grande source de combat, ta plus grande source de douleur, devienne ton plus grand sujet de joie. Que ça devienne ta plus belle victoire. Que ça devienne ton beraka, ça devient ta bénédiction. Je crois que beaucoup de frères et sœurs doivent encore quitter, c'est pas fait pour tout le monde, doivent encore quitter la vallée des pourquoi, la vallée des comment c'est arrivé, pourquoi c'est arrivé, comment on va faire pour s'en sortir, et etc., etc., vous connaissez tout ça. Quitter la vallée des pourquoi, quitter la vallée des questions, toutes ces vallées dans lesquelles on s'enfonce, ces vallées qui sont en quelque sorte un peu des vallées de l'ombre de la mort, sous certains aspects, la vallée des larmes, pour rentrer dans la vallée de Beraka. Et c'est pour cette raison, merci Seigneur, que je vais continuer, malgré l'adversité, je vais continuer à le chercher, lui. Je vais continuer à me tenir devant lui. Je vais continuer à l'écouter, à le consulter, lui. Commencer ou continuer, chacun mettra le verbe qui lui convient. Commencer ou continuer à l'écouter, lui, pour retrouver sa voix, pour obtenir une parole précise, une parole libératrice, une parole clé pour une situation précise, pour retrouver la puissance de la louange, pour être admiratif de ce que Dieu fait dans mes circonstances. Et je sais que c'est le but de l'adversité, c'est d'arriver, c'est ça l'objectif, arriver dans la vallée de Béraka, là où mes pires ennemis sont devenus ma meilleure bénédiction, et que j'en sorte plus riche, plus grand, plus fort, plus béni, plus près de Dieu. Merci Seigneur. Et quand on vit ça, ben c'est normal, et je ne suis pas maso, ça m'est arrivé de dire plus d'une fois dans ma vie, Seigneur, merci pour tous les problèmes qui m'ont ramené à tes pieds. Merci Seigneur pour tout ce qui m'a ramené à tes pieds. Merci pour les déserts, merci pour les orages, merci pour les tempêtes, merci pour les ennemis, merci pour les problèmes, merci pour les crises, merci pour les trahisons, merci quand on a voulu me crucifier, merci quand on a creusé un trou et qu'on a voulu me mettre dedans, merci quand on a voulu ma peau, merci Seigneur, parce que je t'ai trouvé et j'en suis ressorti encore plus grand. Amen.